L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à accuser Jésus. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches : Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. L'opposition entre les scribes et les pharisiens d'un côté et Jésus de l'autre est marquée d'emblée. Elle est accentuée par la mention du mont des Oliviers. C'est en ce même endroit que Jésus se fera arrêter par ces mêmes pharisiens. L'opposition est donc entre des gardiens de la loi, plus précisément des hommes qui se croient investis de cette mission, et la source de la loi, le Christ, Jésus, le Verbe, la parole faite chair. Alors que la loi édictée par Moïse, dont se réclament ces hommes instruits, a été écrite sur des tables de pierre. Nous allons assister à une énième diatribe entre les juges et Jésus, entre la lettre de la loi et sa source, entre le texte et la personne du Verbe Fils de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est plus grave, car la vie d'une femme est en jeu. D'après le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10, l'adultère entraîne la condamnation à mort sans que le mode soit spécifié. L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. La lapidation est précisée dans le Deutéronome pour le cas d'une femme non mariée. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme, parce qu'il a abusé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. C'est sans doute le plus important dans cette situation. Il s'agit d'extraire du milieu du peuple les germes de division. L'unité du peuple est en première et bâtie sur l'obéissance à la loi de Moïse, selon, bien sûr, ces mêmes docteurs de la loi. Le piège est redoutable et apparemment infaillible. Si Jésus s'associe à la condamnation réclamée par la loi mosaïque, il entre en rébellion contre le pouvoir romain. Du même coup, il contredit la part la plus subversive de son enseignement, qui parle d'un Dieu de miséricorde. Mais, s'il ne le fait pas, il s'oppose à Moïse, l'autorité suprême. Ce n'est pas la première fois que Jésus est confronté à ce genre de danger. Souvent, il confondra ses opposants en allant sur leur propre terrain. Il démontera une à une leurs interprétations erronées. Jésus dira souvent « On vous a dit, moi je vous dis ». Entre l'unité du peuple soi-disant garantie par ses pharisiens et scribes, par les prêtres et docteurs de la loi, loi appliquée stricto sensu au prix d'une vie humaine d'un côté et la vie d'une femme de l'autre, nous devinons déjà de quel côté Jésus va se situer. Mais comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va écrire. Oui, mes frères, il écrit. Nous savons que Jésus n'a rien écrit. Lui, la parole, le Verbe fait chair. Il n'est pas l'écrit fait chair, ce n'est pas possible. Non, désormais Dieu ne veut plus rencontrer les humains en dehors de son Fils, de la parole. La lettre tue, l'esprit vivifie, nous dit saint Paul. C'est d'autant plus vrai dans ce passage de l'Écriture. Nous ne sommes décidément pas une religion du livre. Dieu privilégie la rencontre interpersonnelle à l'étude du texte. Il préfère scruter le cœur, cœur de chair, que de scruter les Écritures. Cependant, comment va-t-il s'y prendre? Il écrit à son tour, mais sur le sol. Le terme grec parle de la terre comme élément naturel. et n'écrit pas seulement sur le sol ou le sable comme on a pu le lire ici ou là, mais bien sur la terre avec un grand T. Cette terre-mère dont parle notre pape François à la suite de saint François et de tant de croyants. Cette terre que Jésus, fils de Dieu, a créée avec son Père et son Esprit. Le geste de Jésus est sacré. De même que son Père a écrit les 10 commandements sur les tables de pierre sur le mont Sinaï, de même son Fils Jésus écrit-il la terre, sur la terre. Son geste est plus universel. Ce n'est plus une loi pour un peuple, mais une nouvelle loi pour un nouveau peuple, le peuple unique de l'humanité. Désormais, tout ce que dira et fera Jésus aura une portée universelle. Sa loi ne concerne pas seulement le cercle restreint fermé des juifs pieux de l'époque, mais tous les humains. Cette femme aussi est concernée. Certains ont interprété le geste de Jésus en disant qu'il avait écrit les péchés de ceux qui sont autour de lui. Car il manque un personnage important dans cette histoire, l'homme avec qui cette femme aurait commis le péché d'adultère, un des 10 commandements qu'il est formellement interdit de transgresser sous peine de mort, nous l'avons vu plus haut. Par contre, il n'y a que des hommes pour accuser cette pauvre femme. Alors Jésus écrit et surtout se tait. Lui, la parole fait silence, laissant sans doute à chacun le temps du repentir et de prendre conscience que pour lapider cette femme, il faudrait soi-même être sans péché. Peut-être n'ont-ils pas commis le péché d'adultère, mais le complice de cette femme l'a commis, lui. Mais ils en ont commis tant d'autres et vont en commettre encore. Par exemple, le meurtre. Car dans ces mêmes commandements, il y a « tu ne tueras point ». Mais Jésus ne veut pas entrer en dialogue avec eux. Il veut qu'ils prennent conscience qu'il ne suffit pas de ne pas commettre de péché, il faut encore aimer. Tu aimeras. Jésus aime cette femme pleine de peur. Il aime également ces hommes remplis de peur, peur de perdre leur pouvoir sur le peuple. La femme surprise en adultère dans cet évangile représente chacun de nous quand nous nous détournons de Dieu et refusons son don de vie et d'amour, quand nous blessons les autres et nous-mêmes. Dans le langage biblique, d'ailleurs, l'adultère symbolise le péché. Nous nous détournons de celui qui nous aime et nous appelle à une liberté intérieure nouvelle. Jésus dit à chacun de nous ce qu'il a dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. » Le temps du carême nous invite à cette remise en question. Nous devons avoir le courage d'affronter le regard d'amour miséricordieux de Jésus qui relève la tête alors qu'il est assis sur le sol pour écrire. Et que ces hommes sont debout à l'accuser finalement autant qu'elle. Elle qui est aussi au niveau du sol. Jésus est donc au même niveau qu'elle. Il la rejoint au plus près pour pouvoir croiser son regard apeuré et entrer en dialogue avec elle. Alors qu'il refusera le dialogue avec les hommes accusateurs. Jésus a délivré cette femme des conséquences néfastes de la loi de Moïse pour la mettre sous sa loi d'amour, basé sur la rencontre interpersonnelle, le face-à-face, mieux, le cœur à cœur. Elle est blessée par le mal qu'elle a commis, mais lui aussi, puisqu'il a pris sur lui les conséquences du mal. Alors, il peut lui dire, comme à chacun, « Va, et désormais ne pêche plus, parce que je t'ai rencontré et que tu m'as rencontré. » Il a fallu aller jusque-là pour que nous nous rencontrions, jusqu'à la bassesse de ta vie. Acceptons que Jésus nous rejoigne jusqu'à nos propres bassesses, là, au sol, accusés par les autres et par nos propres lois internes. C'est la miséricorde, comme le dit si bien saint Augustin. Jésus resta seul et la femme était là. Ils sont restés tous les deux, la misère et la miséricorde. Nous avons entendu la réponse de sa justice aux pharisiens. Écoutons la voix de sa douceur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur condamne donc, mais le péché, non pas l'homme qu'il est venu racheter de ses péchés.